Restez informés tout au long de la journée. Écoutez Radio Oméga. Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Ibrahim Bayili.
Menace de mort contre le personnel d'Omega Media. L'affaire est désormais entre les mains de la justice. Omega Media a porté plainte contre X. Le ministère de la Communication, dans un communiqué, dit condamner avec la dernière énergie ces actes d'intimidation qui ne sauraient avoir place dans notre pays. L'artiste musicien Amzi, ambassadeur de Canal Plus Burkina, mobilise plus de 12 millions à travers son projet Takwa pour les PDI, au profit des personnes déplacées internes. Et puis, revue conjointe des performances des projets du ministère de la Transition Digitale des Postes et des Communications Électroniques. La session a été ouverte ce mercredi. Voici pour le sommaire, le développement dans un instant. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Omega Media dénonce des menaces graves contre son personnel et ses locaux. Dans un communiqué rendu public ce mercredi, le groupe dont relève Radio Omega informe les autorités, l'ensemble des organisations professionnelles de la presse et le public burkinabé de l'existence de plusieurs enregistrements audio dans lesquels les auteurs profèrent des menaces graves et directes à l'endroit de son personnel et contre ses locaux. Les auteurs menacent ouvertement de s'en prendre à l'intégrité physique et même à la vie du journaliste animateur Alain Alain pour ses propos tenus dans la rubrique Le défouloir de Alain Alain du 13 octobre dernier sur Radio Omega et Omega TV. Il menace aussi de s'en prendre à l'intégrité physique du promoteur de Omega Media Alpha Barry et d'incendier les locaux du groupe. Jugeant ces menaces suffisamment graves et attentatoires à la liberté d'expression chèrement acquise au Burkina et garantie par la loi fondamentale, le groupe Omega Media a porté plainte hier contre X. L'affaire est donc maintenant entre les mains de la justice. Et naturellement, Alain Traoré alias Alain Alain peut compter sur l'entière solidarité de la rédaction d'Omega Media face à ces personnes mal intentionnées. Dans le même registre, le ministère en charge de la communication a également donné de la voix. Dans un communiqué publié ce mercredi, il dit avoir constaté sur les réseaux sociaux des menaces audio appelant à porter atteinte à l'intégrité physique de certains hommes de médias, à leurs locaux et matériels de travail. Le ministère de la Communication dit condamner avec la dernière énergie ces actes d'intimidation qui ne sauraient avoir place au Burkina Faso. Le département a par ailleurs tenu à rappeler aux utilisateurs des réseaux sociaux que ces outils sont des facteurs de rapprochement encadrés par des textes et quiconque les transgresse s'expose à la rigueur de la loi. L'insécurité qui traverse notre pays a contraint des populations à quitter leur localité d'origine. Le nombre est estimé à plus d'un million de déplacés internes selon le dernier recensement du mois de septembre. Des personnes qui se trouvent en manque de vêtements et de nourriture. Une situation qui ne laisse indifférent l'artiste musicien Amzi, ambassadeur de Canal Plus Burkina. En effet, son projet Takwa pour les PDI, lancé le 10 septembre dernier, a permis de récolter une somme de 12 170 000 francs CFA convertis en denrées alimentaires et en vêtements. C'est ce qu'a fait savoir le staff de Amzi devant la presse. C'était ce mercredi à Ouagadougou. Compte rendu Ibrahim Niaone et Yagouba Wilio.
Le projet Takwa pour les PDI, lancé en septembre dernier pour soutenir les déplacés internes, fut une réussite. En effet, le conseil caritatif initié par l'artiste musicien Amzi et Canal Plus Burkina a permis de récolter une somme de plus de 12 millions de francs CFA, le tout converti en denrées alimentaires. En sus du numéraire, l'artiste et ses partenaires ont reçu des vêtements. Pouvoir mobiliser ces fonds pour soutenir ces nécessiteux est une satisfaction pour l'artiste. Amzi, artiste musicien.
Ce qui m'anime est une satisfaction. Et comme je l'ai dit à la conférence de presse de lancement, le but ici, c'est le message. Voilà, ce qu'on pourrait récolter, c'est important. Mais le plus important, c'est le message qu'on donne aux Burkinabés. de se dire que tout Burkinabé doit venir au secours du Burkinabé qui en a besoin. Et franchement, je suis fier de pouvoir me dire que j'ai apporté ma contribution au développement du pays.
Cet acte social entre en droite ligne de la politique sociétale de Canal Plus Burkina qui fait de l'humanitaire l'une de ses principales priorités. Saïbou Ba, le chargé de communication de Canal Plus Burkina.
Le talent que nous accompagnons, qui est un ambassadeur, puisse être autant sensible au point de prendre sur lui la décision donc, de mobiliser les Burkinabés autour de son, grâce à son talent du moins, grâce à sa voix, et mobiliser autant de matériel, de vivres pour venir en aide à des Burkinabés qui souffrent. Nous ne pouvons qu'être fièrement fiers et très heureux.
Le concert caritatif organisé par l'artiste musicien Amzi et Canal Plus Burkina a eu lieu le 10 septembre dernier à Canal Olympia Ouaga 2000. Les fans de l'artiste venus le soutenir ont massivement adhéré au concept. En lieu et place des tickets, ils étaient demandés à chaque spectateur de faire un geste en nature ou en espèce au profit des personnes déplacées internes. D'autres artistes comme Ameti Meria et Rasmane Ouedraogo ont fait parler leur cœur.
De son côté, l'artiste entrepreneur Hugo Boss entend redonner espoir aux enfants des zones touchées par le terrorisme. Cela à travers la construction d'une école dénommée École Lumière. Cette initiative découle du projet Un concert, une école. Elle permettra de mobiliser en grande partie les ressources financières à l'issue d'un concert géant prévu en décembre prochain pour la réalisation de l'infrastructure scolaire évaluée à 220 millions de francs CFA. Compte rendu Jacob Compaoré avec la voix de Chalda.
Une école primaire de 6 classes dénommée École Lumière au profit des enfants venus des localités affectées par le terrorisme, c'est le projet. Un concert, une école de l'artiste entrepreneur Hugo Boss pour accompagner les acteurs de l'éducation nationale. Et pour la réalisation de l'infrastructure, 60% de chaque ticket de son concert prévu le 12 décembre prochain y seront injectés pour permettre à tout Burkinabé de participer aux 10 projets. Hugo Boss, initiateur du projet.
L'objectif autour de ce projet, c'est accompagner l'éducation de mon pays parce qu'aujourd'hui, on sait tous que depuis mai 2020, selon un consortium d'ONG, il y a plus de 4625 écoles qui sont fermées ici au Burkina Faso. Et nous, à travers ce projet, on aimerait vraiment accompagner l'éducation de notre pays. On ne peut pas être là à attendre uniquement l'aide du gouvernement parce que je pense que le développement de ce pays-là doit concerner et interpeller tout un chacun.
L'établissement sera bâti sur une superficie d'un hectare à Zabré, ville natale de l'initiateur du projet. L'école sera composée d'une administration, de 6 salles de classe, d'une bibliothèque, d'une infirmerie, d'un terrain de sport et d'un jardin. Tout cela dans l'objectif de faire briller ses apprenants et de préparer leur avenir. Stéphane Guigman, chef du projet.
C'est une école à la vision d'une lumière, une école qui va répondre à tous les besoins éducatifs et bien sûr avec une formation pratique sur l'entrepreneuriat parce que nous avions une vision, c'est de permettre que d'ici 10 à 20 ans, nous ayons des produits finis qui peuvent répondre aux besoins de la nation burkinabé. On va aller très très vite sur la construction de cette école, que l'école puisse être à pied et servir à la nation le plus tôt possible.
La pose de la première pierre de l'infrastructure évaluée à 220 millions de francs CFA est prévue pour ce mois de novembre. Et pour sa réalisation, l'artiste appelle à la solidarité de tous les citoyens afin de permettre aux enfants déplacés internes de prendre le chemin de l'école.
Un nouveau modèle de classe passerelle pour améliorer l'apprentissage des enfants et des jeunes non scolarisés, c'est l'intitulé du projet de la Fondation Karanta Fawe Rokar. Ce projet cible les enfants et les jeunes hors école âgés de 8 à 15 ans. Pour réussir sa mise en œuvre, un atelier de renforcement des capacités est organisé au profit des coordinateurs ou coordonnatrice du FAWE, Forum des éducatrices africaines, ROCAD, Réseau Ouest et Centre africain de la recherche en éducation, des cadres des services centraux du MENAPLN, ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Compte rendu, Solomon Nikema, Alice Kagone.
Durant 3 jours, du 19 au 21 octobre, les coordonnateurs et coordonnatrices du FAWE, ROCAR et les cadres des services centraux du ministère en charge de l'éducation vont échanger sur ce nouveau moyen de classe passerelle. L'objectif principal est de permettre aux coordonnateurs au cadre des services techniques en charge de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, les chefs des circonscriptions de base et des partenaires techniques et financiers à mieux connaître le centre d'éducation non formelle à visée scolaire. Kirasse Zio est le directeur général de l'éducation non formelle.
Il s'agit donc d'échanger sur la philosophie même du centre, d'échanger sur les différentes orientations, les objectifs, le personnel, la gouvernance globale de ce type de centre-là, et d'échanger également sur les curricula et les outils d'accompagnement, notamment les outils d'exécution et de suivi.
Bernadette Sanou, co-chercheur principal de ce projet, s'est réjouie d'une telle initiative qui va permettre à certains enfants de reprendre le chemin de l'école.
Ceci est une nouvelle, est un nouveau projet qui va renforcer toutes ces initiatives pour la reprise et la remise à l'école, sinon la mise à l'école de ces enfants qui sont actuellement comme un peu privé de possibilité d'aller à l'école et d'éducation.
Ce nouveau modèle doit être mis en œuvre en octobre 2022 et ce jusqu'en mai 2023. Les enfants seront accueillis dans les centres d'éducation non formelle de Saba et le village de Pissi dans la commune de Saponé.
Le ministère de la Transition digitale, des postes et des communication électronique a organisé ce mercredi 19 octobre à Ouagadougou la session de la revue conjointe des performances des projets et programmes au titre des premiers et deuxièmes trimestres 2022. Cette revue entre dans le cadre de l'évaluation trimestrielle des projets du ministère. La session, en plus de l'examen des performances, intègre une rubrique partage d'expériences et de bonnes pratiques en matière de gestion des projets et programmes de développement. Irène Nikema et Yasmine Ebier.
La crise sécuritaire n'est pas sans conséquences sur les activités du ministère de Transition digitale des postes et des communications électroniques. L'avancée des programmes au titre des premiers et deuxièmes trimestres 2022 sont fortement impactés par cette situation. C'est du moins ce qu'a déclaré Brahima Barreau, directeur général des études.
Pouvant relever ça dans la mise en œuvre des différents projets, certaines difficultés, notamment la question sécuritaire, l'insécurité, où certaines infrastructures du numérique sont détruites et on a du mal à rétablir parce que c'est des zones dont la sécurité n'est pas vraiment à la hauteur.
Pour relever ces défis, cette session intègre un partage d'expériences et de bonnes pratiques en matière de gestion des projets et programmes de développement pour mieux anticiper les changements souhaités du numérique. Omar Bougma, chargé de projet.
Ensemble, on essaye d'évoluer dans cette dynamique holistique en apportant ce qu'il faut à l'infrastructure, à la connectivité, pour que les services qui vont tourner plus tard là-dessus, comme l'identifiant électronique, puissent donc être très bien fournis comme on le souhaite.
Plusieurs projets sont déjà entamés, notamment le projet Backbone National des Télécommunications, le e-Burkina et le projet d'appui au développement des technologies de l'information et de la communication, dont les résultats attendus sont l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'accessibilité aux infrastructures de TIC.
Hors de nos frontières, la réunion sur le Mali du Conseil de sécurité de l'ONU a donné lieu mardi à une scène pour le moins inhabituelle dans cette enceinte avec des échanges très virulents entre le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop et l'ambassadeur français Nicolas de Rivière. Le premier a répété les accusations qu'il lance depuis le 15 août dernier. Selon lui, la France fournit des armes et des renseignements aux groupes djihadistes au Mali. Accusations graves, mensongères et diffamatoires, a répondu le second. Une situation à la fois violente et cocasse puisque la France attend des preuves et que le Mali demande à pouvoir les dévoiler sans saisir l'occasion de le faire. Selon Human Rights Watch, des unités de l'armée nationale congolaise ont soutenu des groupes armés impliqués dans de graves exactions lors du récent conflit avec le M23 soutenu, selon Kinshasa et les experts de l'ONU, par le Rwanda. L'ONG rapporte que ce soutien a été enregistré entre mai et août 2022. De nouvelles révélations qui risquent d'empoisonner davantage les relations entre Kinshasa et Kigali qui s'accusent mutuellement d'agression. Le Sénat à majorité de droite s'est opposé mercredi à une proposition de loi transpartisane visant à inscrire le droit à l'IVG et à la contraception dans la Constitution française, examinée en première lecture dans le cadre d'un espace réservé au groupe écologiste. La proposition de loi soutenue par le gouvernement a été rejetée par 139 voix pour et 172 contre. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné ce mercredi 19 octobre l'instauration de la loi martiale dans les quatre territoires ukrainiens de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhzhia, annexés en septembre par Moscou. Vladimir Poutine a annoncé cette mesure lors d'une réunion de son conseil de sécurité diffusée à la télévision. Le Kremlin a ensuite publié un décret annonçant l'entrée en vigueur de la loi martiale dans ces territoires à partir de jeudi minuit.
La revue de presse.
Nos éditorialistes du jour s'intéressent à la gestion du pouvoir. Si l'expert du Faso, dans son analyse, estime que le capitaine Ibrahim Traoré a la lourde responsabilité de conduire le navire Burkina Faso selon les préceptes de Thomas Sankara et doit le faire avec sa touche personnelle, le journal Le Quotidien, pour sa part, renchérit sur le fait que la présente transition doit imprimer une autre gouvernance en faisant régner l'ordre, la discipline, le patriotisme et l'amour du travail bien fait.
À la une des quotidiens du jour, la grande mobilisation dans la Tapoa, des élèves et parents d'élèves qui exigent la réouverture des salles de classe. À la une également, la crise au sein du CDP. À travers cette décision, la justice reconnaît que c'est Eddy Kambiogo, le président du parti, estime le président de l'aile futuriste himself. Et le pays a la une de renchérir. Moi, je ne fuirai pas le CDP parce qu'on me combat de l'intérieur. Nos éditorialistes, quant à eux, s'intéressent à la gestion du pouvoir public. L'Express du Faso, dans son analyse, estime que les organisateurs du 35e anniversaire de l'assassinat du père de la révolution burkinabé ont porté sur les épaules du capitaine Ibrahim Traoré la lourde responsabilité qu'il a désormais de conduire le navire battant pavillon Burkina Faso selon les préceptes de Thomas Sankara. Non, sans apporter sa touche particulière et surtout en tenant compte du contexte burkinabé, mais également du contexte international qui n'est pas le même qu'en 1983, lorsque Thomas Sankara et ses camarades prenaient le pouvoir. Et même que beaucoup d'observateurs lui recommandent d'être lui-même capitaine Ibrahim Traoré. Aussi, dans le domaine de la lutte contre l'insécurité et les groupes armés terroristes, le capitaine Ibrahim Traoré doit amener les Burkinabés à croire en eux-mêmes avant de faire recours à n'importe quel soutien, surtout venant de l'extérieur, poursuit le quotidien Boboulet. Car Thomas Sankara n'a jamais enseigné aux Burkinabés que leur salut devait venir de quelqu'un d'autre, autre que, précise l'Express du Faso. À sa suite, le journal Le Quotidien renchérit, la réussite de la transition dépendra des choix et des convictions au sommet. Si mon confrère estime que nous sommes embarqués dans un coup d'état militaire avec des oripeaux d'une fausse démocratie qui, pour faire plaisir à la CEDEAO et à certains partenaires, il s'interroge surtout de savoir comment dans un tel contexte les choses peuvent-elles aller vite, comme le souhaite le président de la transition Ibrahim Traoré. Dans tous les cas, Le Quotidien, pour sa part, estime qu'on ne peut pas faire un coup d'état militaire et vouloir jouer aux démocrates. Et tant que cela ne sera pas clair, la présente transition va encore commettre les mêmes erreurs que celles passées et sombrer dans ce que le capitaine Traoré lui-même a condamné dès le départ, c'est-à-dire les lourdeurs administratives et la bureaucratie. Par ailleurs, Le journal Le Quotidien estime que c'est tout un programme quinquennal ou décennal qui doit être exécuté en 21 mois par la transition. C'est sans doute pourquoi, pour réussir cette transition, qui est d'ailleurs condamnée à réussir, tout doit se concentrer sur trois missions très essentielles que sont rétablir et renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire national, apporter une réponse urgente, efficace et efficiente à la crise humanitaire et assurer l'organisation d'élections libres, transparentes et inclusives. La présente transition doit donc imprimer une autre gouvernance en faisant régner l'ordre, la discipline, le patriotisme et l'amour du travail bien fait, ce qui lui permettra d'aller vite et bien, de l'avis du journal Le Quotidien.
Merci à Linta Ouedraogo pour cette revue de presse. C'est la fin de cette session d'information. Edwige Tendrebego à la réalisation, Chalda au live Facebook. Je suis Ibrahim Bailly. Merci de nous avoir suivis.
Radio Omega, l'info en direct.